On va sacrifier. Oui, alors je disais que j'étais commerçant et je travaille donc, j'ai deux boulots, moi j'ai de la chance. Je travaille dans une coopérative qui s'appelle Andine, qui est basée en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris, là où il y a le Stade de France. Il n'y a pas que. Et c'est une coopérative qui a 25 ans, donc c'est une coopérative de travailleurs. Je le disais tout à l'heure avec des amis, en France, il y a 12 statuts de coopérative. Je vous invite à apprendre d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a derrière ces 12 statuts. On est d'ailleurs ici pour apprendre, hein, pour échanger. Je ne vais pas poser trop longtemps, peut-être moins d'une demi-heure. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est le débat, quoi. C'est que chacun apporte sa pierre et puis qu'on sorte. On essaie de sortir d'ici, de cette salle, ben, un petit peu plus intelligent et un petit peu plus de vous. On retrouve un peu de dignité et qu'on prenne notre vie en main. C'est un peu ce qu'on cherche, hein, les uns et les autres, si on est là ce soir. Donc je travaille dans cette coopérative qui faisait ce qu'on appelait au départ, c'est nous qui avions inventé les mots, du commerce équitable. C'est une coopérative qui a 25 ans, donc on avait trouvé les mots commerce équitable. On va voir que, comme l'agriculture biologique, le système a su récupérer, absorber, marchandiser une partie, en tout cas, de ces valeurs fondamentales que l'on porte au fond de nous-mêmes pour simplement faire du profit. Alors, on est dans un système dont on pourra parler dans le débat, qui fonctionne d'une certaine manière. En tout cas, son moteur principal, c'est le profit. Et puis, il faut toujours plus produire, faire plus de profit, plus commercialiser, plus consommer. Voilà, donc on est dans cette société-là aujourd'hui. J'ai la chance, depuis une dizaine d'années, de travailler aussi dans... Alors c'est à mi-temps, mais ce sont deux mi-temps militants. Hein, dans une... ça bouge tout seul, ça. Dans une association, un réseau qui s'appelle Minga. Donc Minga, c'est agir ensemble pour une économie équitable. Vous voyez, déjà, on ne parle plus de commerce équitable, on parle pour une économie équitable. Donc dans Minga, nous sommes une centaine d'adhérents individuels et une cinquantaine d'entreprises, dont la coopérative Andine où je travaille. Pour préciser un peu plus, cette coopérative donc est basée sur une idée de commerce équitable, mais du départ, c'est-à-dire universelle, l'équité pour tous les travailleurs qui interviennent dans l'économie, dans une filière, que ça soit au sud ou au nord de la planète. Bon, après, ça a dévié. Hein. Maintenant, le commerce équitable, c'est nord-sud, obligatoirement. Il y a une loi en France, d'ailleurs, qui interdit de parler de commerce équitable si ce n'est pas nord-sud ou sud-nord. Bon, on s'est bataillé contre tout ça, mais on se bataille encore. Bon, voilà, donc nous, on travaille aussi en économie équitable ou en commerce équitable, si vous voulez, avec des paysans français. On pense que d'abord, il faut être équitable avec les gens qui sont autour de nous, et il faut l'être avec notre premier partenaire à tous, mais qu'on a bien souvent oublié dans notre civilisation, soi-disant développée, etc. Hein, c'est simplement la nature dont on fait partie. Alors, dans ce réseau Minga, on réfléchit beaucoup sur... on travaille ensemble, on essaie d'être solidaire entre les entreprises, surtout que c'est comme dans tous les milieux, et même le milieu paysan, c'est-à-dire de plus en plus d'entreprises individuelles ou collectives disparaissent, déposent le bilan, tout simplement. Il y a 6 ans, on était 120 structures au sein de Minga, on est plus qu'une cinquantaine. Voilà. Et souvent pour des arrêts d'activité, et souvent pour des raisons non pas de viabilité de l'entreprise, mais pour des raisons financières, pour des raisons de manque de fonds de roulement, de manque de trésorerie. C'est aussi le cas d'ailleurs de la coopérative où je travaille. Je détaille un peu tout ça parce que c'est important de dire d'où on parle, hein, qui on est. Et si vous intervenez dans le débat, n'ayez pas peur aussi de définir un peu qui vous êtes. C'est toujours intéressant de mieux se connaître. Voilà. Alors, il s'est trouvé qu'il y a 4 ans maintenant, avec des copines et des copains, on s'est rencontrés et on s'est questionné sur beaucoup de choses, mais entre autres ce qu'on appelle en France l'agriculture biologique. Donc, comme beaucoup de citoyens en France, on ne savait pas trop ce que c'était. On a bien étudié quand même ce qu'on nous a dit à l'école et ce qu'on nous a dit à la télé, enfin sur les grandes chaînes de télé, c'est-à-dire l'agriculture biologique, ce sont simplement des produits qui sont issus, alors c'est là que Benoît, que je connais depuis 20 ans, hein, va me contrôler, mais la définition est celle qu'on a dans la tête de l'agriculture biologique, ce sont des produits qui sont cultivés donc sans produits de synthèse, sans produits chimiques, point. Hein, c'est ce qu'on nous met dans la tête. Et il y a un label. C'est pas compliqué. En France, vous avez 3 labels. Hein, alors, n'ayez pas peur. Mais là aussi, je vous invite à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière une norme, derrière un label, derrière une loi. On est là pour apprendre hein, et pour essayer de se stimuler entre nous. Donc, ce fameux label, la définition qu'il donne, c'est ça, quoi, c'est celle-là. Donc, nous, on s'est dit, on va quand même voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et à partir de, surtout, d'enquêtes de terrain. Donc, on a créé une association à l'époque, il y a 4 ans, qui s'appelle Alteravia, qui existe toujours, Alteravia avec 2 R. Hein, donc, vous pouvez aller sur le site internet. Je ne l'ai pas dit, mais la coopérative Andine a un site internet, Mingal a un site internet, même plusieurs. Donc on est parti bénévolement, quoi. On a enquêté dans plusieurs pays, dans une dizaine de pays, à 8. On s'est retrouvé à 8 personnes, 4 femmes et 4 hommes, dont des paysannes et des paysans, des journalistes, ma petite personne en tant que commerçant. Voilà, enfin on était plusieurs métiers. Et on s'est dit, bon, on va se lancer là-dedans pour écrire une petite brochure, quoi. Enfin, non, déjà, c'est pour nous, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis, voilà. Et puis, au fil des mois, quoi, ça a donné pas mal de réflexions, pas mal d'enquêtes de terrain, qu'on a réduit, hein, parce que sinon, ça ferait un millier de pages. Et on a fait tout un travail collectif de collecte d'informations, de témoignages, notamment de paysans. On a rencontré à peu près 450 paysans. Et autant de réseaux, 400 réseaux, dans les 10 pays où on est passé, en particulier en France, bien entendu. Voilà. Et on a essayé tous ensemble, y compris avec les personnes qu'on a rencontrées, ben, d'essayer d'analyser les choses. C'est-à-dire, nous, on n'est pas pour la polémique ou pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, on n'est pas dans la morale. Hein, on essaie d'analyser par rapport au fonctionnement de la société, comment fonctionne la société. Excusez-moi, je ne suis pas un grand orateur. Bon, donc ça finit par un livre qui a été publié effectivement il y a quelques mois et qui comporte 16 chapitres. Personnellement, j'en ai écrit que 2, mais j'ai participé à toute la rédaction collective. On s'est échangé les articles, on s'est autocritiqué, enfin on a changé pas mal de choses et on a écrit tous ensemble donc l'introduction et la conclusion de ce livre. Voilà, les 2 articles que j'ai écrits personnellement, c'est sur la Bolivie, on va en reparler, et puis parce que j'ai vécu en Amérique du Sud, de par l'entreprise, la coopérative Andine, hein, parce qu'Andine c'est les Andes. Bon, et puis sur la, alors là c'était plus difficile, sur la filière du lait biologique en France, alors moi je ne connaissais absolument rien, bon, et puis, c'est pas très bon. Hein, bon. Donc j'ai été voir une quarantaine d'éleveurs, de paysans, des coopératives, enfin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Voilà. Alors il faut dire que on a découvert au fil de nos voyages, si vous voulez, de nos rencontres, on a découvert tout d'abord quelque chose de formidable, c'est-à-dire des personnes, des humains, pour qui l'agriculture biologique était une philosophie de vie, était global, si vous voulez. On a découvert que la bio, moi je ne savais même pas, la bio ça veut dire la vie. Je ne savais pas avant, hein. On est complètement ignorant, mais, hein, je ne sais pas ce qu'on apprend dans les écoles. Bon, la vie. Donc, l'agriculture pour eux, pour ces paysans, ou pour ces citoyens, parce que ici ce soir je ne parlerai pas de consommateurs, hein. Ça c'est un mot qu'on nous a mis dans la tête, on n'est plus des citoyens, on n'est bon qu'à acheter, on n'a plus de revenus, on n'est bon qu'à, on n'a qu'un pouvoir d'achat, on est réduit quoi, à des acheteurs. Un rôle d'acheteur, comme esclave, quoi. Donc, on a découvert ça. Et on a écouté. Bon. Et on a vu qu'il y avait plusieurs sens aussi de ces paysans ou ces citoyens qui s'organisent, qui créent des réseaux, et qui s'auto-organisent, hein, qui se prennent en main pour retrouver justement leur liberté, leur dignité, et tout ça dans la démocratie. C'est pas facile. Il y avait plusieurs définitions. Alors on a découvert la biodynamie, à travers l'agriculture biologique, là je parle surtout en France, hein. On a découvert la biodynamie, mais aussi Nature et Progrès, qui est une organisation dont vous avez peut-être entendu parler, je vous invite à vous rapprocher d'elle. Bon, c'est 1600 membres, dont 800 professionnels, je crois, des paysans, des transformateurs, enfin dans ces eaux-là. Hein. Voilà. Et puis, on s'est aperçu que tous ces gens-là, ces paysans, mais c'est des milliers de personnes, partageaient quoi, ce concept d'agriculture biologique au sens très large du terme. Voilà. Et puis en passant dans certaines villes, dans certains quartiers, on s'est dit, tiens, on va rentrer, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des grandes surfaces, vous savez, Auchan. Bon, moi, j'y vais plus depuis 17 ans, mais de temps en temps, il faut quand même rentrer pour aller voir qu'est-ce qui se fait dans ces temples de la consommation, là. Donc on a été voir, puis on a vu, tiens, il y a des produits, il y a marqué bio dessus. Alors on s'est dit, tiens, ça a peut-être à voir avec ce qu'on est en train d'étudier, l'agriculture biologique. Voilà. Et puis on s'est aperçu que derrière une partie de ces produits dans ces grands magasins, là, ces hyper magasins, où il n'y a pas de vendeur, d'ailleurs, on est une vendeuse, mais bon, une caissière à la fin qui vous fait un sourire, qui vous dit merci, et puis il faut dégager avec les caddies. Et puis, bon, on s'est aperçu que derrière, on a fait une enquête, bien entendu, et puis on s'est aperçu que plus de la moitié des produits que vous trouvez, qui sont dits biologiques dans la grande distribution, sont importés, même des produits qui peuvent être faits à côté de chez nous, hein, ils sont importés. Bon, ça nous a posé question, donc on a enquêté pourquoi ils sont importés, pourquoi on ne choisit pas ou on ne distribue pas, pourquoi la GMF, grande et moyenne de surface, ne distribue pas des produits locaux, puisqu'ils sont produits. Et bien, c'est des questions de profit, c'est des questions de coût, de prix, si vous voulez, des produits. Donc on se retrouve avec des salades qui viennent de Pologne, des pommes ou autre chose qui viennent d'Israël, des fraises ou autres et autres légumes qui viennent du Maroc, de Tunisie, du Chili aussi, qui sont bio. Voilà. C'est-à-dire sans pesticides, ni herbicides, etc. Bon, on s'est posé la question, on s'est bien sûr aperçu que c'est peut-être des produits biologiques au sens de la définition du label, mais on s'est aperçu que c'est des produits complètement anti-écologiques, vu les transports. Hein. Et on s'est aperçu aussi que c'est des produits complètement antisociaux. C'est-à-dire que si ces produits sont importés et qu'ils sont moins chers, c'est-à-dire que les travailleurs qui les ont cultivés, qui les ont transformés ou emballés, etc., sont très peu payés, quand ils sont payés, n'ont pas de contrat de travail, parce qu'après on a été enquêté justement dans certains pays, notamment en Espagne, au Maroc, en Palestine, moi-même j'étais en Bolivie, en Colombie, bon, on a essayé de comprendre tout ça. Et donc on a vu que les conditions de travail des gens qui produisent ou qui transforment ou qui transportent tous ces produits-là, dits biologiques, sont souvent infernales, quoi, et à la limite du supportable. Donc on s'est dit, tiens, on va appeler ça bio-business. Voilà, c'est pour ça que le bouquin, il s'appelle « La bio entre business et projet de société ». Voilà. On s'est aperçu qu'il y avait deux grandes tendances, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la bio, on n'y connaît rien. Mais on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait, dans tous les pays où on est passé, même en France, hein, mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud notamment, on a découvert que les paysans faisaient de l'agriculture biologique et même allaient beaucoup plus loin, hein, on pourra en parler dans le débat, depuis des siècles, tout simplement. Alors qu'on nous fait croire que l'agriculture biologique a été inventée par des Blancs, par des Occidentaux, bien sûr, dans les années 60-70. Maintenant, ça existe depuis des millénaires. Voilà. C'est comme le commerce équitable, hein, vous pensez sans doute que ça a été créé dans les années aussi 70-80, ben non, c'est millénaire aussi. Quand on a créé la coopérative andine, on s'est basé sur un texte qui a 23 siècles, qui a été écrit par Aristote, je mélange un peu tout, mais j'espère que vous me suivez, qui est un philosophe grec, qui a écrit un livre justement sur l'équité dans les échanges, l'équité dans le commerce, et ça s'appelle « Éthique à Nicomaque ». Donc nous, on a pris nos principaux critères, on les a pris dans ce livre qui a été écrit il y a 23 siècles. Alors, vous voyez, ça date. Hein. Et puis, il y a beaucoup de commerce qui est équitable, bon, enfin plus ou moins équitable, bon, qui pendant tout le long de l'histoire. Voilà, donc on a découvert que cette agriculture biologique était appelée autrement dans les langues des pays ou des cultures où on a pu aller, notamment en Amérique du Sud. Dans les communautés, par exemple, Quechua ou Aymara, bon, on a découvert vraiment des choses incroyables. Par exemple, le refus de la propriété. On a rencontré des gens, des humains comme vous et moi, qui refusent de s'approprier quoi que ce soit, et surtout pas le sol, la terre. Alors que nos sociétés, à nous, sont basées, y compris en agriculture bio, hein, sont basées sur la propriété privée ou la propriété collective. Voilà. Dans la langue aymara, le mot propriété n'existe pas. Alors ça nous a posé question, quoi. On s'est dit, ben oui, mais comment ça fonctionne s'ils n'ont pas de propriété? Les gens, ils se réunissent de manière communautaire, de manière démocratique, ils se distribuent la terre selon les besoins des familles. Ils les distribuent, puis ils discutent longtemps, hein, souvent, et puis ça fonctionne tout simplement. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Oui. On a essayé d'étudier un petit peu l'histoire. Donc, vous verrez, enfin, si le livre vous intéresse, bon, on a essayé de raconter un peu l'histoire, justement, selon les différentes cultures. C'est vrai qu'en France, par exemple, bon, les mots agriculture biologique, enfin le concept large, j'entends, bon, a été, même si l'agriculture biologique existait avant, hein, au niveau réel, bon, le concept a été créé dans les années 60, 70, enfin par voilà, Nature et Progrès, etc., bon, et d'autres, hein, beaucoup d'autres, qui ont voulu écrire ce qu'on appelle une charte, quoi, hein, c'est-à-dire bon, un guide de critères pour savoir où ils allaient. Voilà. Et puis ils ont voulu aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont dit bon, faudrait que ça soit sous forme presque de loi. Donc c'est devenu, il y avait une charte, ils ont fait ce qu'on appelle un cahier des charges, hein, assez compliqué. Et puis ils ont, avec l'État, ils en ont fait, hein, ce qu'on appelle un label. Bon, il faut savoir qu'un label, c'est comme une loi, c'est comme une norme, c'est un effet de rapport de force, hein, entre différentes forces. Hein. Donc, les pionniers qu'on appelle, hein, de ce qui s'appelait à l'époque, dans les années 60-70, l'agriculture biologique, bon, se battaient justement pour qu'il y ait un cahier des charges large. C'est-à-dire qui inclut effectivement le respect du sol, le respect de la santé des humains, l'interdiction de produits chimiques, mais aussi le respect des travailleurs, du droit des travailleurs, par exemple, le respect d'une rémunération équitable pour tout le monde, pour que tous les travailleurs puissent vivre de leur travail, le respect des écosystèmes, de la biodiversité, enfin c'était vraiment global. Voilà. Et c'est à ce moment-là, par le rapport de force, que le label est devenu, malheureusement, a été complètement réduit, à un cahier des charges purement technique, dont on a enlevé justement les questions sociales, les questions écologiques, et puis qu'on a réduit ce concept à un concept purement technique, c'est-à-dire des produits cultivés sans produits de synthèse. Donc, et c'est devenu, c'est-à-dire qu'avec la meilleure volonté du monde, on en a rediscuté encore avant-hier avec des membres de Nature et Progrès, parce qu'il y a eu une récupération du système qui a réduit ce concept. Je ne sais pas trop comment vous expliquer un peu plus. Bon. Alors, après, on a, je vous l'ai dit, mais je vais revenir un peu dessus quand même, on a découvert que chacun a sa... Enfin, l'agriculture biologique, c'est pas un système forcément unique. Hein. Il y a différentes écoles, il y a différentes conceptions, différentes philosophies derrière, parce que ça dépend de la culture de chaque région, justement, dans le monde. L'agroécologie, par exemple, qu'on a connue en Amérique du Sud, notamment en Bolivie, dans les Andes, surtout, bon, et beaucoup plus global, si vous voulez, enfin, pas seulement global, mais synthétique, je ne sais pas bon, comment dire exactement, que notre conception à nous, quoi. Parce qu'il y a un rapport à la nature qui est complètement différent. Voilà, donc, ça reste à creuser tout ça. Il y a d'autres gens qui ont beaucoup écrit là-dessus, il y a des films aussi à ce sujet. Bon, c'est ce qu'on appelle grosso modo l'agroécologie. Nous, ça nous a beaucoup intéressé parce que c'est pas systémique, si vous voulez. C'est pas, ils ne prétendent pas que tel système ou telle méthode qui est employée dans tel coin est forcément reproductible ailleurs. Voilà, donc ça laisse une grande liberté, si vous voulez, à chacun. Bon, j'essaie de résumer, parce que sinon... Bon, je vais revenir quand même un petit peu sur le bio-business, c'est-à-dire que, bon, on s'est rendu compte, notamment par mon voyage en Espagne, par exemple, ou en Israël, que l'agriculture biologique était complètement donc réduite au concept purement technique, hein, et qu'il y avait énormément de problèmes au niveau social, au niveau syndical, on a découvert par exemple en Israël, mais surtout au sud de l'Espagne, en Andalousie, des centaines, même plusieurs milliers d'hectares cultivés en agriculture biologique, c'est-à-dire sans produits de synthèse, hein, mais où les travailleurs, et surtout les travailleuses, n'avaient pas de contrat de travail, ou si elles avaient un contrat de travail, on leur avait confisqué, elles étaient étrangères, hein, elles arrivaient de Pologne ou de Roumanie, donc quand elles arrivaient, on leur confisquait le passeport pour qu'elles restent absolument, non seulement dans la région, mais dans l'entreprise, pendant les 2 ou 3 mois de collecte ou de culture. Voilà. Et on a découvert un grand nombre de choses comme ça, interdiction bien sûr de s'organiser, interdiction syndicale, et tout ça. Philippe Baquet, qui est journaliste et qui a participé au livre et qui nous a d'ailleurs un petit peu coordonné, hein, j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir, mais bon, il n'a pas pu. Lui, il a été en Colombie, par exemple, dans le nord de la Colombie, où il a découvert donc là aussi des centaines d'hectares de culture de palmiers, pour la fameuse huile de palme, vous savez, bon, certifiée, bio, donc qui correspond à la charte et au label, quoi. Mais il s'est aperçu, il a été sur place, hein, à ses risques et périls, il s'est aperçu que tous ces milliers d'hectares, ces centaines d'hectares de palmiers, en tout cas, appartenaient à une même famille, qui s'appelle la famille Dabon, qui est reliée intimement aux paramilitaires, au narcotrafic, au nord de la Colombie, et qui, pour justement agrandir les champs de culture des palmiers, ont expulsé les paysans locaux, qui eux faisaient leur culture vivrière, donc ils les ont expulsés manu militari, parce que dans ces régions-là, on rigole pas, pour pouvoir faire de l'huile de palme bio certifiée, d'ailleurs certifiée par Ecosia. Je vais dire un petit mot quand même justement sur ces fameux certificateurs, parce qu'on appelle ça des organismes. Ce ne sont pas des organismes. Ça, c'est encore un mot qui nous rentre dans la tête et qui nous trompe, qui nous abuse. Les fameux certificateurs, vous en avez quoi, 5-6 en bio en France, hein?
7,
voilà. On appelle ça des organismes, en fait ce sont des entreprises classiques, comme Ecocert, qui est une multinationale, tout simplement, qui cherche à faire de l'argent, à avoir le plus de clients possible. Moi, Ecocert et d'autres, hein, je les retrouve dans tous les pays où je passe, et puis voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est opaque, c'est-à-dire... Et sur un produit, on met le label parce que le produit a été certifié par un des certificateurs, mais vous n'avez pas accès à l'information qui fait que c'est plus bio que bio, si vous voulez. Hein. C'est plus bio qu'un autre produit. Voilà, c'est complètement opaque. D'ailleurs, c'est comme... là aussi, on peut faire un parallèle avec le commerce équitable. Je vous invite à aller n'importe où acheter un produit avec les petits labels et puis essayer de remonter la filière, essayer de savoir... combien les paysans sont payés, enfin essayer de comprendre tout ce système-là. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Donc voilà, nous pour terminer là-dessus, pour être plus positif, dans le livre aussi, vous trouverez, parce que je voudrais être très court, donc c'est un peu difficile, vous trouverez aussi des bribes de solutions, hein, des pistes, parce que nous sommes quand même des millions à refuser ces mensonges, à refuser ce système de profit, à vouloir autre chose, et même, dès aujourd'hui, à inventer, tous ensemble, à inventer d'autres, on le voit ce soir, hein, d'autres formes de produire, d'autres formes de distribuer, voilà, et ça s'invente de tous les jours. Alors je vais être positif là-dessus, parce que moi j'ai la chance, grâce au livre, mais même avant, avec mes collègues, de beaucoup voyager, et à chaque fois, on découvre, dans chacune des régions où on va, on découvre vraiment une multitude d'alternatives qui naissent, qui sont nées depuis un an, 2 ans, 3 ans, c'est quand même assez nouveau, avec beaucoup de jeunes. Alors pas seulement en agriculture biologique, mais plutôt des alternatives un peu globales, Bon, je veux parler là des circuits courts, des AMAP, des coopératives de consommateurs, des coopératives de producteurs. Enfin bon, il y a une effervescence. Alors, c'est difficile de le savoir parce que les grands médias, vous savez à qui ils appartiennent, hein, donc ils n'ont pas intérêt à parler de tout ça. Et en plus, même les acteurs eux-mêmes dans ces régions-là, y compris ici, moi tous les jours je découvre ici des choses. Tout à l'heure, j'ai découvert qu'il y avait un magasin de produits bio à 600 mètres, je crois, d'ici.
Même pas.
Même pas, voilà. Donc, c'est ça qui est important. Bon, grâce à Benoît, j'ai découvert que, bien sûr, il y avait plein d'autres choses aussi. Puis j'ai la chance de donner, je ne suis pas du tout professeur, hein, moi j'étais ouvrier avant, mais j'ai la chance de donner 25 heures de cours à l'université de Roubaix par an. Payé au SMIC parce que je ne suis pas professeur. Mais bon, c'est intéressant de travailler justement avec des plus jeunes, de les écouter, etc. Donc j'ai découvert qu'à Roubaix, et autour de Roubaix, il y a plein de choses aussi. Il y a des restaurants collectifs, il y a des jardins partagés, comme on a d'ailleurs chez nous à Saint-Denis. Il y a des AMAP. Alors AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais très vite, c'est des citoyens, comme vous et moi, ben, on se regroupe. Hein. C'est pas facile, hein, parce que c'est pas facile de se regrouper, parce que souvent on connaît même pas nos voisins. Alors on est dans des sociétés tellement absurdes que... Mais bon, il y en a qui font un peu l'effort de frapper chez les voisins, hein, ou de parler avec leurs collègues de travail, et puis ils montent un groupe et ils décident tous ensemble d'aller, de contacter directement un agriculteur, ou un paysan, ou un maraîcher, ou un éleveur, pour acheter directement, pour passer un contrat avec ces professionnels, et pour acheter directement donc les produits. Alors ça peut être des fruits et légumes, de la viande, des œufs, de la volaille, enfin un peu tout, des fromages, tout ce qu'on veut. Ça peut être autre chose d'ailleurs que des produits agricoles. Il commence maintenant à y avoir des groupements d'achat d'autres produits. Bon voilà, ce sont des citoyens qui s'auto-organisent, tout simplement. Et personne ne peut nous en empêcher. On a peur, on dit « oh, on n'a pas le temps, patati patata ». Il faut prendre le temps. Pour retrouver notre liberté d'organisation et d'auto-organisation. Voilà. Donc hier, j'étais... je suis un peu fatigué. Hier, j'étais à Valence, dans la Drôme, et là aussi, quoi, j'ai découvert tout autour de... J'étais à Crest et à Valence. Bon, et j'ai découvert qu'il y avait 6 magasins producteurs. Alors, ce sont des producteurs qui en ont marre de se faire exploiter, de marre de disparaître déjà, hein, parce que tous les ans, vous avez 25 000 paysans en France qui disparaissent. C'est le secteur économique, disons, où il y a le plus de suicides. 25 000 paysans qui disparaissent, hein, tous les ans. Bon, et vous n'êtes plus très nombreux.
Hein. C'est pour ça que la bio deviendra bientôt majoritaire.
Bon, j'ai plus d'optimisme. Voilà. Ouais. Donc, moi j'avais entendu parler de ces magasins de paysans, c'est-à-dire c'est des agriculteurs qui refusent, tout au moins en partie, de vendre leurs produits à la grande distribution, qui les fait crever, mourir, et qui les affame en tout cas, et donc de s'auto-organiser là aussi pour vendre directement leurs produits. Donc il y a aussi cette formule-là, il y a aussi des circuits courts, il y a des ventes à la ferme, il y a aussi toute la restauration collective, pas seulement scolaire, hein, collégienne, lycéenne ou autre, mais professionnelle également. Donc voilà, il y a des comités d'entreprise quand même qui commencent à se prendre en charge à ce niveau-là, qui réfléchissent et qui refusent le système et qui essaient de faire autre chose. Voilà, il y a une multitude de choses. Et dans tous les pays où on a été, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a plein il y a de plus en plus de citoyens là, qui se prennent en charge et qui veulent simplement vivre autrement. Non seulement produire et échanger ou consommer autrement, mais vivre autrement carrément. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Ça va, je ne vais pas être trop long. Bon. Je vais laisser la parole, parce que moi je préfère le débat, hein, surtout si vous avez certainement des témoignages à apporter ou des questions éventuellement. Et peut-être que Benoît peut apporter son point de vue et puis son témoignage sur la région, quoi, parce que c'est important de parler de ce qui se passe là où on est. Voilà, merci de votre attention.